névrosés, nous le sommes tous. Mais peut-on pourtant sortir de cette fatalité? Il y a bien un réalisateur dans l'histoire du cinéma qui a rendu populaire la notion de névrose psychologique. Allez, je vous le donne en mille, c'est... Mais oui, Woody Allen, évidemment. Hein, vous vous souvenez qu'il a incarné toute une série de personnages névrosés qui passaient sa vie chez son psychanalyste couché sur le divan, hein, le psychanalyste freudien à New York, bien installé, etc. Et ce personnage, ces personnages principaux qui sont complètement névrosés et qui se plaignaient en permanence de la vie, nous ont donné finalement une image extrêmement négative de la névrose. Et c'est vrai que pendant très longtemps, personnellement, j'ai considéré que la névrose, c'était une pathologie dont il fallait se débarrasser. Jusqu'à ce que je lise un passage d'un livre de Paul Vaslavik. Paul Vaslavik, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des grands pères, un des grands fondateurs des théories de communication au début des années 60, hein, fin des années 50, début des années 60. Et Paul Vaslavik a proposé une métaphore pour expliquer ce que c'était une névrose. Et vous allez voir que en prenant le point de vue de Vaslavik, vous allez voir les névroses de manière totalement différente de ce que vous pensiez que c'était jusqu'à présent. Alors évidemment, j'ai quand même une mauvaise nouvelle pour vous, mais il y aura quand même deux bonnes nouvelles par la suite. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez découvrir à travers l'exemple donné par Vaslavik que nous sommes tous névrosés. Ben oui, vous êtes névrosés, je suis névrosé, nous sommes tous névrosés, à des degrés divers évidemment, peut-être Woody Allen est plus névrosé que d'autres, et encore, on ne le sait pas, mais vous allez voir tout de suite avec la métaphore proposée par Vaslavik. Et cette métaphore, c'est la métaphore du cheval névrosé. Alors, ce cheval névrosé, eh bien, évidemment, il n'est pas névrosé au départ, mais Vaslavik nous propose d'imaginer la situation suivante. Vous mettez un cheval dans un box expérimental, et dans ce box expérimental, vous placez une sonnette et vous placez aussi une plaque métallique sous l'antérieur gauche du cheval, une plaque métallique qui peut être électrifiée. Et chaque fois qu'on fait sonner la sonnette, 5 secondes plus tard, on envoie une décharge électrique dans la plaque. Évidemment, le cheval reçoit cette décharge électrique au niveau de son antérieur et il va lever son antérieur pour arrêter de souffrir. On répète l'expérience plusieurs fois et très vite, le cheval va associer la sonnette avec le fait que imminemment, il va y avoir une décharge électrique qu'il va ressentir dans son antérieur et donc il va lever son antérieur avant le délai des 5 secondes qui vont précéder, si vous voulez, la décharge électrique. Et là, dit Vaslavik, le cheval a adopté une réaction de survie tout à fait adaptée. Donc là, le cheval est tout à fait normal, entre guillemets. Il a même trouvé le meilleur comportement, la meilleure stratégie gagnante, si vous voulez, pour survivre et surtout pour ne pas souffrir. Bien. Ensuite, dit Vaslavik, imaginez que les expérimentateurs continuent à faire sonner la sonnette régulièrement, mais ils n'envoient plus jamais, de décharge électrique dans la plaque qui se trouve dans le box expérimental. Qu'est-ce que vous pensez, demande Vaslavik, qu'est-ce que vous pensez que le cheval va faire avec son antérieur? Ben évidemment, chaque fois qu'il va entendre la sonnette retentir, eh bien le cheval va continuer à lever son antérieur dans les 5 secondes qui suivent le retentissement de cette sonnette. Et là, dit Vaslavik, on va pouvoir considérer que le cheval est devenu névrosé. Et donc, pour Vaslavik, la définition qu'il donne d'une névrose, et je trouve que c'est, de toutes les définitions que je connaisse en psychologie à propos des névroses, je trouve que c'est la plus simple, la plus imagée et en même temps la plus pertinente à propos de la notion de névrose. Vaslavik donne cette définition. Il dit, finalement, une névrose, c'est un comportement qui, dans le passé, était adapté en termes de survie, en termes de stratégie pour ne pas souffrir, etc. Mais qui n'a pas été modifié au fil du temps, malgré le fait que les circonstances extérieures ont été modifiées. Et dans cette mesure-là, ce comportement qui initialement était adapté est devenu à ce moment-là inadapté et c'est devenu une névrose. Donc, en fait, la notion de névrose requiert plusieurs caractéristiques et recèle plusieurs caractéristiques. C'est peut-être plus adapté comme expression. Première caractéristique, c'est que c'est un comportement qui est devenu inadapté aux circonstances, d'accord ? Deuxième caractéristique, c'est que la névrose a un caractère répétitif, c'est-à-dire qu'on répète toujours les mêmes réflexes, parce que finalement, c'est un réflexe conditionné que le cheval a acquis avec cette expérience. Bien. Et donc, finalement, la notion de répétition va se trouver au cœur de toutes les névroses que nous avons. Alors, avec cet exemple, avant d'aller plus loin, vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai annoncé que finalement, vous, comme moi, nous sommes tous névrosés. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans notre histoire, dans notre petite enfance, et même plus tard, nous avons vécu un certain nombre d'événements traumatiques. Nous avons vécu un certain nombre d'événements qui ont été souffrants, qui nous ont fait souffrir, où nous nous sommes rendu compte que si on continuait avec la même stratégie, nous allions soit ne plus survivre, soit nous allions souffrir, nous allions perdre aussi l'amour de nos éducateurs, etc., etc. Et donc tout cela a fait que très vite, nous avons adopté un comportement qui s'est adapté aux circonstances. Et donc là, nous avons eu la meilleure stratégie gagnante pour survivre. Bien. Je vous prends un exemple tout simple. Je suis un tout petit garçon à table, j'ai 3 ans, et il y a un repas où mes parents ont reçu des amis, et puis à un moment donné, je veux prendre la parole pour intervenir dans la conversation. J'ai 3-4 ans, et je m'intéresse à ce que les adultes disent, etc. Et là, mon père me dit « Tais-toi, laisse parler les grands ». Bon, alors voilà, là je sens que je n'ai pas intérêt. Puis quelques semaines plus tard, il y a un autre dîner avec d'autres amis qui est organisé. Et de nouveau, je veux prendre part à la conversation. Et de nouveau, mon père me dit, si tu parles maintenant, tu vas la recevoir. Bon, ok, donc qu'est-ce que je vais faire très rapidement ? Eh bien, je vais adopter une stratégie qui sera de me taire. C'est-à-dire que je vais inscrire dans mon inconscient le fait que si je veux garder une sécurité sur le plan de mon intégrité physique et si je veux garder l'amour de mon père, eh bien, il va falloir que je me taise chaque fois qu'il y a des adultes autour d'une table. Bien. Je grandis, je deviens adolescent, je deviens adulte, je ne vis plus chez mes parents. Et malgré tout, ce comportement qui a été gagnant pour moi, parce que ça m'a évité de recevoir des taloches pendant toute mon enfance et mon adolescence, eh bien, je vais le conserver alors que je suis adulte. Et donc, je vais continuer à me taire chaque fois que je serai assis autour d'une table et qu'il y aura d'autres adultes, alors que moi-même, je suis adulte. Mais émotionnellement, vous comprenez que psychiquement, je ne suis pas comme un adulte à ce moment-là. Je suis encore dans ma posture d'enfant qui voit les autres comme des adultes, mais qui ne se voit pas lui-même adulte. Et c'est là que le fait de me taire alors que j'aurai des choses à dire et à partager autour de la table va manifester, va signer, si vous voulez, le fait que je viens de développer, depuis des années d'ailleurs, une névrose. Ça va ? Alors évidemment, on pourrait se demander, mais comment on peut sortir de nos névroses ? Alors évidemment, ça c'est plus Vaslavik qui le dit, c'est Jean-Jacques Rêvecœur, qui imagine un autre cheval arriver près de son collègue qui lui est enfermé en permanence dans son box expérimental et qui lui dit « Écoute, j'ai des informations que je peux te donner à titre tout à fait confidentiel. Tu sais, j'ai des relations avec certains expérimentateurs et puis j'ai surpris des conversations et tu sais, ils sont en train de se foutre de ta gueule depuis des années parce que ça fait des années qu'ils ne t'envoient plus une décharge électrique et donc toi, t'es vraiment comme un con, là, t'es en train de lever ton antérieur chaque fois que tu entends la sonnette retentir alors qu'il n'y a plus rien. Je t'assure, tu peux laisser ton antérieur sur la plaque. Est-ce que vous croyez que le cheval va suivre le conseil de son collègue qui, lui, n'a jamais souffert de décharge électrique ? Non, évidemment. Il va dire, ouais, écoute, t'es bien gentil, mon vieux, mais qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas encore en train, tu n'es pas complice des expérimentateurs pour me mettre en tentation et me laisser me prendre de nouveau une décharge. Tu sais, moi, je l'ai senti, les décharges, les premières fois, et plus jamais je ne serai prêt à revivre ce genre de souffrance. Eh bien, c'est exactement ça qui verrouille nos comportements en tant qu'être humain. C'est la peur de souffrir à nouveau. Mais cette peur de souffrir à nouveau, elle est devenue totalement, je dirais, irréelle et elle est devenue totalement non fondée parce que nous n'avons pas pris la peine de faire une chose. Et cette chose, c'est quoi ? C'est de vérifier dans la réalité s'il n'y avait pas certains éléments de la réalité, de l'environnement, qui avaient changé. D'accord ? Mais évidemment, et c'est là que j'en viens aux bonnes nouvelles, c'est que donc, une névrose, ça peut se changer, mais à deux conditions. Première condition, c'est qu'il va falloir d'abord prendre conscience que je suis en train de répéter une névrose. Et la meilleure façon de prendre conscience de ça, c'est tout simplement de m'observer. Vous allez prendre un peu de recul, vous allez vous demander, et c'est ça que je vous invite à faire à la suite de cette vidéo, vous allez prendre un peu de recul et vous allez vous demander, mais finalement, c'est quoi les choses répétitives que je fais en permanence sans y penser, sans y réfléchir ? Voyez ? Et en faisant cela, vous allez très vite identifier ce qu'on pourrait qualifier de névrose. Donc, en fait, tous les comportements répétitifs dont vous êtes l'acteur, dont vous êtes l'auteur, révèlent probablement, je dis bien probablement parce qu'il y a toujours des exceptions, mais révèlent probablement la présence chez vous d'une névrose. Bon, donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'identifier des névroses tout simplement en regardant ce que vous répétez de manière inconsciente et involontaire de manière régulière. Bien, deuxième bonne nouvelle, mais évidemment là, c'est qu'on peut changer une névrose à condition évidemment d'avoir le courage de changer nos comportements, donc d'avoir le courage d'aller retester la réalité. Tiens, qu'est-ce qui va se passer si demain, alors que j'ai un dîner avec d'autres adultes, entre guillemets, que va-t-il se passer pour moi si j'ose prendre la parole ? Et si vous avez le courage de vous donner simplement la permission, en disant, OK, pour le prochain repas qui a lieu demain soir, je me donne la permission de prendre la parole, et tant pis si le ciel me tombe sur la tête. Vous vous souvenez d'Astérix le Gaulois qui n'avait peur de rien, sauf d'une chose, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Eh bien, ça va être la même chose pour vous. C'est de dire, OK, tant pis si le ciel me tombe sur la tête, tant pis si je me fais rabrouer, tant pis si je me fais critiquer, mais je veux tester dans la réalité si je vais encore être rejeté par un groupe d'adultes autour d'une table lorsque je veux prendre la parole. Et en posant l'acte, c'est là que vous allez voir si votre peur d'être rejeté, votre peur de recevoir une torgnole, etc., va être fondée ou si, effectivement, elle n'était plus fondée sur rien. Vous savez, j'avais un prof de psychologie à l'université qui disait que nous avons beaucoup de cadavres dans les placards. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons refermé des placards avec quelqu'un qui était très menaçant, mais nous n'avons plus jamais osé ouvrir ce placard de peur que cette personne menaçante que nous avons enfermée dans le placard nous agresse encore. Mais 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, quand on rouvre le placard, évidemment, la personne qu'on a enfermée n'est plus là. À la limite, c'est un tas d'os, mais ce n'est plus tellement menaçant. Eh bien, c'est exactement la même chose que je vous invite à faire. Donc, je vous invite, d'une part, à vous observer, amusez-vous à observer les aspects répétitifs de votre vie. Ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. Et la deuxième chose, c'est d'oser rouvrir les placards, d'oser retester la réalité pour vérifier que la réalité a peut-être changé, que les circonstances ont peut-être changé, et c'est là que vous allez commencer à guérir de vos névroses.